France Culture.
Et la semaine a été marquée par toute une série de protestations et de grèves de la part des salariés du Louvre, par exemple, où depuis un mois, une partie d'entre eux se mobilisent pour de meilleures conditions de travail. Depuis bientôt un mois, lundi dernier, le musée avait fermé ses portes, ou celle encore des médecins libéraux qui ont suspendu leur mouvement vendredi dernier, le gouvernement s'étant engagé à supprimer dans l'actuel projet de loi contre la fraude fiscale et sociale le caractère obligatoire de la mise sous objectif par l'assurance maladie des médecins qui surprescrivent des arrêts de travail. Je vais également vous raconter les coulisses de la préparation de cette émission. Pour préparer ce tour d'horizon de l'actualité, j'ai pour habitude de m'appuyer sur de nombreux journaux, évidemment, et à plus forte raison, vous vous en doutez, sur ceux à caractère économique. Or, vendredi, pas de parution des Échos, catastrophe, dont les salariés étaient en grève. Le motif profond de cette grève est le sentiment prégnant d'irrespect des dirigeants du pôle presse de LVMH à l'égard du métier de journaliste, expliquent les représentants du personnel. Lundi dernier, l'intersyndicale des caisses régionales du Crédit Agricole a également appelé ses salariés à débrayer. Dans un article paru ce matin dans Libération, Jean-Yves Salva, secrétaire national Sud Crédit Agricole Mutuel, explique être dans le groupe depuis 1998 et c'est la première fois qu'il voit un appel national à la grève, grève prévue donc pour jeudi prochain. Sont mis en cause les salaires qui n'augmentent que trop peu par rapport à l'inflation, mais aussi le plan de mutualisation des activités des caisses régionales. Mobilisation enfin à l'Institut de formation des inspecteurs du travail, c'était jeudi dernier, pour protester contre des pratiques violentes à l'encontre de trois élèves. Un paradoxe pour un établissement qui forme au respect du droit et des conditions de travail dans les entreprises, souligne Mediapart dans un article qui couvre le sujet. Paradoxe aussi, serait-on tenté de rajouter, dans un contexte où l'inspection du travail peine à recruter, ce qu'avait souligné un rapport de la Cour des comptes en février 2024. Entre 2015 et 2021, l'inspection du travail a perdu 16% de ses effectifs tout de même. Et puis pas question de terminer ce tour d'horizon de l'actu de la semaine sans mentionner le budget, une constante ou peu s'en faut depuis le début de cette grille. Vendredi, Sébastien Lecornu a présenté toute une série de mesures dans le but d'échapper à la censure. Il a ainsi annoncé que le déficit public de la France serait ramené à 5% du produit intérieur brut cette année contre 5,4% en 2025. Pour y parvenir, pour la première fois, des dépenses des ministères en euros courants seront inférieures à celles de l'année dernière. Les ministères des armées, de l'éducation, de la justice, de l'intérieur ou encore de l'agriculture ne seront pas concernés. A priori, c'est surtout Bercy qui va prendre. Les entreprises sont également largement concernées. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises va être reconduite et devrait rapporter 8 milliards d'euros comme l'année dernière en fait. Alors tout cela suffira-t-il? Réponse très prochainement, car le Premier ministre devrait annoncer dans la journée s'il aura ou non recours au 49.3. Et nous, en attendant, on part du côté de Bruxelles et des États-Unis où les tensions économiques ne sont pas que commerciales mais aussi monétaires. Et tout a commencé en juillet 2025 lorsque Donald Trump a signé le Genius Act, soit l'encadrement de ces fameux jetons numériques indexés sur le dollar, moment savamment mis en scène par la communication de la Maison Blanche.
This afternoon, we take a giant step to cement American dominance of global finance and crypto technology. As we sign the landmark Genius Act, creates a clear and simple regulatory framework to establish and unleash the immense promise of dollar-backed stable coins.
Nous ne pouvons pas prendre le risque que ces cryptos stables.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, le 14 janvier 2026.
Qui eux vont sans doute beaucoup se développer, soit exclusivement en dollars, exclusivement émis par des entités privées et exclusivement émis par des entités non européennes. Si les paiements étaient dans la main quasi exclusivement ou principalement d'acteurs privés et américains, là nous aurions un vrai risque de souveraineté économique. Monsieur Trump a lui beaucoup politisé le débat, c'est vrai. Vous avez peut-être noté qu'il encourage les fameux stablecoins en dollars, mais il interdit, lui, la monnaie numérique de banque centrale. Donc là, je crois qu'il y a une volonté politique de privatisation de la monnaie qui me paraît à la fois regrettable et dangereuse.
C'était donc le 14 janvier dernier, le gouverneur de la Banque de France qui s'inquiétait d'une forme de privatisation de la monnaie. On pourrait se dire que les faits lui donnent quelque part raison. La capitalisation des stablecoins, ces monnaies digitales adossées à une monnaie bien réelle, dépasse en 2025 les 310 milliards de dollars contre moins de 200 milliards fin 2024. Or, ces jetons sont majoritairement adossés au dollar. La montée en puissance des stablecoins, nouveau défi pour l'Europe, pouvait-on lire dans l'édition du 14 janvier du Figaro. Un défi en passe d'être relevé. Le 30 octobre dernier, la Banque Centrale Européenne a annoncé vouloir lancer courant 2027 la phase pilote pour l'euro numérique, version digitale de l'argent détenu en espèces. Tout ça n'est pas forcément très clair, mais nous allons y voir plus clair grâce à nos deux invités qui sont avec nous en studio aujourd'hui. Éric Monnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Economics et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Également avec nous en studio, Valentine Floriani, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes doctorante en sociologie au sein du laboratoire Institutions et dynamique historique de l'économie et de la société au sein de l'université Paris-Saclay. Alors Éric Monnet, il faut bien comprendre d'où vient l'inquiétude, dans quel contexte on se situe aussi. Le 11 janvier dernier, un think tank, Sustainable Finance Lab, a publié une lettre ouverte sur le site du Financial Times où l'on pouvait lire ceci: l'Europe va perdre le contrôle d'un des éléments le plus fondamental de notre économie, notre monnaie. Cette lettre est signée de 68 économistes européens, dont vous, Éric Monnet. Alors pourquoi un tel cri d'alarme? D'où vient fondamentalement la menace?
Oui, nous, merci de faire référence à cette lettre qui a été initiée par un think tank, enfin un groupe néerlandais qui est spécialiste de finance, des questions européennes aussi, et puis qui a rassemblé tout un nombre de signataires assez divers. Il y a des spécialistes de finance, quelques banquiers, des anciens banquiers centraux aussi, l'ancien gouverneur de la Banque d'Espagne, et puis beaucoup d'universitaires qui voulaient en fait juste un peu mettre dans le débat public cette question de l'euro numérique qui, comme vous l'avez dit, serait un équivalent digital, numérique, aux billets de banque, aux espèces qui sont pour l'instant émis en fait uniquement par la Banque Centrale Européenne. Et souvent, c'est un débat qui est vu comme assez technique. Beaucoup de gens se disent pourquoi est-ce que j'aurais besoin de remplacer mes billets alors que je peux payer avec des cartes bancaires ou des comptes en banque? Mais en fait, derrière ces aspects techniques, il y a des enjeux politiques qui sont importants sur garder une monnaie publique qui sont les espèces qui est vraiment émise par la Banque Centrale Européenne. Et puis, ces nouveaux enjeux qui sont apparus avec l'élection de Donald Trump qui est aussi un enjeu de souveraineté. Je pense qu'on dans l'émission, on pourra parler des différents enjeux, c'est-à-dire à la fois vis-à-vis des États-Unis, mais aussi d'avoir une monnaie publique. Donc, étant donné qu'il va y avoir un vote au Parlement européen dans l'année sur ces questions, il nous semble très important, et je vous remercie d'ailleurs de faire de cela avec votre émission, que ça passe dans le débat public et que les citoyennes et les citoyens comprennent que c'est vraiment quelque chose qui les concerne tous et toutes.
Éric Monnet, vous avez posé les termes du débat. On le comprend, il y a un enjeu finalement de privatisation versus une forme de service public ou en tout cas de monnaie qui serait un service public. Juste pour qu'on comprenne bien et assez brièvement, parce qu'effectivement, on pourrait rentrer dans les détails pendant plus d'une heure, ce que nous n'avons pas devant nous, pour qu'on comprenne bien, de quoi s'agit-il vraiment quand on parle de ces stablecoins ou même de cette monnaie numérique que serait l'euro? Est-ce que les acteurs finalement qui sont derrière les stablecoins sont des acteurs uniquement privés? Vous avez mentionné l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Est-ce que le combat il est vraiment entre privé versus public?
Alors, vous parlez des stablecoins, on va peut-être revenir ensuite sur les définir, mais déjà redire que la majorité de la monnaie dans l'économie aujourd'hui, c'est des comptes bancaires, et que les gens font des transferts entre comptes bancaires, donc on appelle ça une monnaie qui est privée, même si elle est très régulée, mais parce qu'elle est détenue et en fait créée par les banques. Et à côté de cela, il existe une monnaie dite publique qui est en fait créée par la Banque Centrale et qui concerne les billets de banque, mais aussi, alors c'est un peu plus complexe, mais des dépôts des banques privées à la Banque Centrale. Mais je reviens sur cette question des billets de banque et pourquoi, en fait, même si l'économie se numérise, c'est important de garder un équivalent digital à ça. C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que de faire en sorte qu'il y ait un peu de concurrence, on va dire, entre cette monnaie publique et cette monnaie privée. C'est-à-dire qu'on peut toujours imaginer le cas radical, mais qui est arrivé dans l'histoire, où en fait des acteurs privés viendraient à monopoliser en fait tous les dépôts bancaires et donc seraient en mesure d'imposer un peu toutes les conditions qu'ils voudraient sur les conditions d'accès, sur le paiement, enfin des charges, des commissions. Et donc en fait, le fait, on le voit aujourd'hui, le fait d'avoir des billets, ça permet tout simplement de faire des signaux très clairs aux banques en disant il y a une alternative qui existe. En temps normal, elle n'est pas là pour vous remplacer les comptes bancaires, mais elle existe, ce qui fait que si jamais vous faites des choses qui sont vraiment mauvaises pour la population avec votre compte bancaire, ça a des possibilités. Et la deuxième raison, c'est plus une raison de souveraineté, c'est que si là, les grandes banques centrales, privées européennes se trouvaient à être détenues par des investisseurs étrangers ou des choses comme ça, ou que les paiements, alors c'est pas seulement les banques, mais aussi les questions de paiement, ce qui est un peu le cas aujourd'hui avec Mastercard et Visa notamment, ou PayPal, ou tout ça, et sont détenues uniquement par des grandes sociétés étrangères, il y a aussi un enjeu de souveraineté. Donc en fait, maintenir un équivalent numérique des billets de banque, c'est surtout pour garantir, on va dire, une saine concurrence dans l'économie entre monnaie privée et monnaie publique, et garantir la souveraineté.
Une question de souveraineté qui est particulièrement importante, dès lors qu'on parle aussi de la potentialité de sanctions, notamment de la part de Donald Trump, c'est ce qu'on a vu récemment, notamment envers un certain nombre de juges de la Cour pénale internationale. Valentine Floriani, on le comprend, il y a une espèce de mélange entre privé et public du côté des États-Unis. Qu'est-ce qui inquiète fondamentalement une institution très solide quand même, comme la Banque Centrale Européenne? En soi, on pourrait se dire, c'est ce que vient de nous expliquer quelque part Éric Monnet, on pourrait se dire qu'une partie de la monnaie est déjà privée, puisque c'est la monnaie bancaire qui fournit l'économie réelle. Donc, pour la BCE, pour la Banque Centrale Européenne, d'où vient véritablement le signal d'alarme et pourquoi elle pense cet objet de l'euro numérique et pourquoi elle la met à l'agenda politique?
Comme l'a précisé juste avant Éric Monnet, effectivement, une partie de la monnaie, même l'immense majorité de la masse monétaire qui est créée actuellement, est créée plutôt par les banques commerciales. Cependant, dans ce cadre-là, il y a justement des mécanismes de régulation, de contrôle, qui sont détenus par la Banque Centrale Européenne, contrairement aux stablecoins, qui, au contraire, sont des dispositifs privés, mais aussi des dispositifs qui sont complètement en dehors de la finance mainstream, de la finance qui est régulée, qui échappe à la régulation, qui échappe également à la taxation, par exemple, en partie. Donc, il va quelque part de la mission de stabilité financière de la Banque Centrale Européenne de pouvoir finalement essayer d'apporter une réponse à ces actifs qui sortent complètement de son pouvoir d'action.
Mais ce qui est intéressant, Valentine Floriani, et là encore, je parle des coulisses de cette émission, mais vous l'avez raconté au téléphone en préparant cette émission, c'est que à l'époque où on commence à penser c'est la possibilité d'une monnaie numérique, en tout cas dématérialisée, il y a aussi un but politique. Alors, c'était pas au sein de l'Union européenne, c'était, on va dire, à moitié des années 2010, vers 2015, en Équateur. Là, il y avait aussi un but politique. C'est donc que cette monnaie numérique peut servir à quelque chose qui remplit des fonctions très politiques et non pas uniquement, on va dire, de l'intérêt privé.
Oui, tout à fait. Mais comme la monnaie est vraiment un objet qui est essentiellement politique et qui peut avoir des implications extrêmement structurantes au niveau à la fois de l'économie dans son ensemble et bien sûr des marchés financiers, de nombreux enjeux sont donc attachés à cet objet. Donc, on pourra reprendre le cas de la Banque d'Équateur, si vous voulez. En tout cas, déjà sur les stablecoins, je pense que quelque chose qui est vraiment important aussi à souligner, c'est que ce sont des dispositifs qui sont porteurs, en fait, d'un projet de restructuration politique fondamentale, c'est-à-dire que ce sont des dispositifs, à l'instar des crypto-monnaies, qui reposent sur une technologie dont l'objectif est précisément de ne pas avoir besoin d'intermédiation bancaire et donc de ne pas avoir besoin des banques commerciales et des banques centrales pour pouvoir valider des paiements. Donc en fait, ce sont des monnaies qui non seulement échappent donc à la régulation, mais en plus qui remettent en question le principe même des banques centrales.
Mais là, alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais Éric Monnet, on pourrait se dire que ça a des avantages. Et d'ailleurs, c'est la raison aussi pour laquelle il y a un tel succès, cette capitalisation qui a explosé aussi en un an. On pourrait se dire, voilà, c'est des paiements plus rapides, moins contrôlés potentiellement par les États. Ça fait partie de l'argumentaire qu'on entend sur un très grand nombre de vidéos YouTube plus ou moins obscures. Mais il y a quand même cet argument-là. Un très grand nombre de pays y ont recours aussi pour éviter toutes les frictions, on va dire, dans les échanges monétaires. Donc, il y a des avantages à recourir à cette monnaie.
Oui, donc les stablecoins, pour dire exactement ce que c'est, donc qu'on dit d'un jeton stable en français, je crois, mais on emploie rarement le nom français.
On est sur France.
Mais c'est des formes de crypto-monnaie, donc c'est un peu, voilà, c'est à émerger après le Bitcoin, c'est la même technologie qui valide, c'est-à-dire qui dit si c'est de la fausse monnaie ou de la contrefaçon. Donc c'est ce qu'on appelle la blockchain, donc la chaîne de blocs. Mais la différence avec le Bitcoin, c'est qu'ils sont censés être stables, comme le nom l'indique, c'est-à-dire que pour être stables, ils sont adossés à une autre forme de monnaie. Donc ça peut être l'euro, ça peut être du dollar. Dans les faits, c'est à plus de 95%, c'est en dollars. Donc c'est quelque chose d'assez étrange, en fait, assez ambigu, parce qu'à la fois ça vient de l'univers des crypto-monnaies. Vous avez décrit Bitcoin, alors, donc très anti-État, anti-banque aussi, anti toute institution qui existait avant. Et en même temps, cela, il se raccroche à des monnaies existantes. Donc c'est très très ambigu parce que c'est quand même des choses qui ne peuvent exister s'il n'y a pas par ailleurs une banque centrale qui existe et qui émet une monnaie elle-même stable. Donc c'est pour ça que c'est un peu un entre-deux. Et effectivement, qui sont assez attractifs, on va dire surtout pour les questions des paiements, là où il y a des, où les paiements sont coûteux et où sont plus rapides. Donc c'est surtout pour les paiements internationaux, mais ça concerne beaucoup de gens dans le monde. Je pense qu'en Europe, on est assez peu visé parce que aujourd'hui, notamment les transferts bancaires se font assez facilement en Europe, sont gratuits, mais il y a beaucoup de pays dans le monde pour lesquels c'est loin d'être le cas.
Et qu'est-ce qui attire fondamentalement, parce que je parlais de l'explosion de ce marché, mais qu'est-ce qui attire fondamentalement avec ces fameux stablecoins? Est-ce que c'est le fait que ce soit des stablecoins ou le fait que ce soit justement des jetons adossés au dollar? En fait, qu'est-ce qui en fait l'attractivité?
Pour l'instant, il y a la réalité et le potentiel, on va dire. C'est que la réalité, aujourd'hui, on sait que quand même les stablecoins, ils sont majoritairement utilisés pour des gens qui ont investi dans d'autres crypto-monnaies, donc type le Bitcoin, pour là avoir un rendement, en fait. Et quand ils revendent ces autres crypto-monnaies, puisque le prix a augmenté, donc ils tirent un bénéfice. Et là, plutôt que d'aller déposer cet argent qu'ils ont gagné dans un compte bancaire où ils vont être taxés, surveillés, en fait, ils le mettent en stablecoin, ce qui permet, du coup, ils sont sûrs que ça ne va pas bouger, mais c'est hors des circuits traditionnels. Donc ça, aujourd'hui, alors c'est toujours difficile de dire exactement, mais on sait que c'est la majeure partie de l'utilisation de ce type de monnaie. Ensuite, il y a une autre utilisation potentielle qui commence à exister, mais qu'on ne voit pas finalement se développer si massivement que ça pour l'instant. C'est effectivement dans des pays, alors notamment des pays où la monnaie est instable, où il y a beaucoup d'inflation. Et ça, c'est des pays où, on disait avant, ils pouvaient être dollarisés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays où il y a 50% d'inflation, en fait, vous allez préférer acquérir une monnaie étrangère, donc c'était souvent le dollar, parce qu'au moins, ça garde la valeur de ce que vous avez, de vos économies, quoi, pour le dire rapidement. Et donc, effectivement, dans ce type dans ces pays, ça peut être intéressant d'avoir une monnaie dont la valeur ne va pas trop bouger.
C'est donc dans ce contexte, on le comprend bien, que l'Union européenne se pose elle aussi la question de la monnaie numérique.
Aujourd'hui, le monde bascule.
Aurore Laluc, eurodéputée française Alliance progressiste des socialistes et démocrates, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen, le 5 décembre 2025.
Bascule dans le numérique et sur Internet, on ne peut pas payer avec des billets, on ne peut pas payer avec des pièces. Et c'est pour ça que nous sommes en train de créer l'euro numérique.
The digital euro. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, le 30 octobre 2025.
L'euro numérique, les différentes options que nous explorons, la manière dont nous communiquons avec les fournisseurs, les commerçants et les banques qui devraient bénéficier de ce système, tout cela montre clairement que nous voulons innover dans le domaine monétaire et dans ce bien public dont nous sommes responsables.
Putting money as a public good on the map and making sure that the anchor is alive and digital as well as cash is our duty.
Moi, je ne souhaite pas qu'on politise le débat européen.
François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, le 14 janvier 2026.
Quand je propose ces deux étages euro numérique plus solution de paiement privé, c'est pragmatique et c'est efficace. Et toujours. Je ne vais pas, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, remonter au Moyen-Âge sur l'articulation du souverain en or et en argent et des premières lettres de change des banquiers lombards. Mais toujours, il y a eu une articulation entre une monnaie publique et une monnaie privée. Il n'y a pas de raison que l'ère numérique change cela.
Valentine Floriani, un point s'impose. Qu'est-ce qu'au juste que ce fameux euro numérique en soit? L'euro existe déjà, la plupart des Européens et des Européennes règlent déjà leurs achats par carte ou par virement. Alors où se situe au juste l'innovation?
Alors l'euro numérique, c'est ce qu'on appelle une monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire une monnaie sous format numérique, mais qui est émise par la puissance publique qui est chargée donc de la stabilité financière et de l'émission de la monnaie publique en Europe, la BCE. Donc en fait, un peu comme comme l'avait présenté également Éric Monnet et comme le présente la BCE, on peut l'imaginer un peu comme une forme de billet ou de pièce, mais parce que justement ce sont les seuls objets monétaires aujourd'hui qui sont émis par la banque centrale elle-même, mais donc ça serait donner une alternative numérique à la monnaie publique.
Et ce qui est intéressant, Valentine Floriani, c'est qu'on entendait là Christine Lagarde, qui, alors c'était aussi très présent dans le reste de son discours, il y a cette question de l'innovation, de la Banque Centrale a pour devoir presque de suivre l'innovation. Comment comprendre l'euro numérique? Est-ce que c'est une question de se dire, la technologie évolue, donc nous aussi avec, mais on verra bien ce que ça donne, ou est-ce qu'il y a une vraie doctrine derrière?
Peut-être que pour le comprendre, on pourrait revenir aux origines du projet, d'où viennent finalement toutes ces réflexions. Et les origines que l'on arrive à retrouver viennent plutôt de la Banque des règlements internationaux, c'est-à-dire une institution qui, pour ce qui nous intéresse ici, produit de l'expertise et des recommandations pour les banques centrales, et qui, dans les années 90, ont entamé une réflexion sur la numérisation de la monnaie publique. Mmh. En fait, leur réflexion, c'est qu'on utilise de moins en moins les pièces et les billets. Donc, on utilise de moins en moins de la monnaie publique qui est directement produite par la Banque centrale.
Donc, c'est moins des enjeux de souveraineté que des enjeux vraiment de précaré, on va dire, ou en tout cas d'affirmation du service public de la monnaie, d'une certaine manière.
D'une certaine manière, mais il peut y avoir des enjeux de souveraineté qui sont liés, en fait, finalement, à la capacité de la Banque centrale à pouvoir exercer ces différentes missions. Et notamment, ça pose à la fois un problème de financement de cette institution, mais également un problème pour assurer son rôle d'ancrage monétaire. C'est-à-dire s'assurer au sein d'une économie qu'elle puisse gérer la valeur de la monnaie.
Éric Monet, je la trouve intéressante cette question de l'innovation et puis aussi de ce que représente le progrès en termes monétaires. Finalement, est-ce que c'est uniquement technologique, se dire bon, bah, voilà, on a de nouveaux outils, on va s'en saisir, ou est-ce qu'il y a cette idée de réaffirmer encore et encore cette idée d'un service public, de se dire que le progrès, en ce qui concerne la BCE, passera par un meilleur accompagnement de celles et ceux qui utilisent cette monnaie?
Oui, en fait, je pense qu'on peut vraiment parler d'un service public de la monnaie, des billets de banque, des espèces, qui n'était pas d'ailleurs évident à l'époque, donc maintenant plus de deux siècles où ça a été créé, ça n'a pas été créé pour ça. Mais en fait, au fil des siècles, enfin, en gros depuis le 19e siècle, on s'est rendu compte que, effectivement, ces simples billets de banque de papier qu'on a dans nos poches, ça accomplit un service public. Et de trois manières, en fait, c'est-à-dire, la première chose, c'est que c'est universel, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. C'est-à-dire que contrairement à un compte bancaire, vous pouvez y accéder même si vous êtes interdit bancaire, et il n'y a pas de frais, et c'est surtout, on peut y accéder partout. Enfin, c'est acceptable partout. C'est comme les billets de banque, alors que vous avez des commerces, là, ils vont pas accepter la carte bleue ou des choses comme ça. Là, ça doit être accepté partout. Donc, il y a vraiment ce côté universel. Le deuxième, c'est le côté de pas avoir de frais. Donc ça, c'est aussi quelque chose que les comptes bancaires n'ont pas. Et donc, c'est là aussi, c'est l'idée de service public. Et là, c'est vraiment gratuit. Et le troisième point, c'est l'anonymat. Et c'est aussi une forme de service public, en fait, et ça rejoint à ce que vous disiez sur le côté qu'il y a un peu des attaques en disant l'État peut tout observer, mais un compte bancaire, là, toutes les transactions sont tracées. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas toujours compris, mais l'État a aussi, dans le service public, c'est d'offrir aux gens la capacité d'avoir quelque chose pour payer, où on va pas toujours regarder exactement ce qu'ils font. Et donc ça, c'est cette troisième caractéristique que l'euro numérique doit aussi essayer de recréer. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois en disant l'euro numérique va être là pour tracer les gens, et ça, c'est tout le contraire. Mais ça, c'est sans doute ce qui présente aujourd'hui le plus grand défi technique pour la BCE, c'est de garantir quelque chose qui va être numérique. Alors, comme les billets de banque, c'est-à-dire que quand vous passez de vos comptes bancaire à l'euro numérique, on saura combien vous avez transféré, quoi. Combien vous avez retiré au guichet, comme on pourrait dire. Mais par contre, les utilisations devront être non traçables. Donc ça, c'est très important. Et normalement, la BCE s'est engagée à ce qu'elle garantisse cet anonymat.
Je reviens juste brièvement sur la première caractéristique que vous avez évoquée. On pourrait dire que c'est aussi le rôle de la Banque de France que de pouvoir offrir finalement un compte gratuit, anonyme et puis accessible en toutes circonstances. Donc très concrètement, mettons que Donald Trump décide de sanctionner un individu en lui bloquant l'accès à ses comptes gérés par Mastercard, Visa, etc., donc des acteurs américains, cet individu-là doit pouvoir se retourner vers la Banque de France et lui dire « Bonjour, j'ai besoin d'un compte en banque chez vous et d'avoir accès à mes comptes ». Techniquement, c'est ça qui est en jeu.
Tout à fait. Alors, ça a longtemps été possible dans l'histoire, d'ailleurs. Donc, l'euro numérique, en fait, c'est équivalent à un compte à la Banque centrale, donc à la Banque de France, la Banque centrale européenne. En fait, c'est, d'un point de vue comptable, c'est la même chose. Alors là où c'est un peu plus compliqué, c'est que justement pour ne pas trop entrer en concurrence avec les banques, la BCE s'est aussi engagée à mettre un plafond sur cet euro numérique. C'est-à-dire pour éviter que justement les gens utilisent l'euro numérique comme ils utiliseraient des comptes bancaires. Donc là, on se retrouve un peu coincé parce que concrètement, ce que vous dites, c'est-à-dire quelqu'un qui serait interdit bancaire aux États-Unis, en fait, ne peut pas, et avec l'euro numérique, ne pourra pas utiliser un compte à la Banque centrale comme un véritable compte. Ça, c'était dans les projets initiaux de l'euro numérique, où il y avait des projets plus ambitieux en disant, voilà, on pourrait vraiment faire que les gens aient plus de comptes à la Banque centrale, comme ça avait été historiquement plutôt les caisses d'épargne. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, des comptes, vraiment des comptes gérés par la puissance publique. Donc, mais là, justement, parce que les banques ont dit que ça serait de la concurrence indue, aujourd'hui, on est sur un projet beaucoup moins ambitieux.
C'était à l'époque d'une ambition avant les négociations avec les banques commerciales. On reviendra sans doute sur ce sujet. Valentine Floriani, il y a une dernière question que je voulais vous poser et je voulais vraiment vous la poser. Vous avez donné une conférence dans le cadre de la journée d'études sur l'argent numérique en septembre 2024 intitulée « Qui comprend l'euro numérique ?» point d'interrogation. Alors, quelle est la réponse à cette question et surtout pourquoi l'avoir posée ?
En fait, ce titre volontairement provocateur, il revenait également sur un ensemble de représentations que les banquiers centraux ont d'ailleurs de l'objet lui-même. Et en revenant en fait souvent aux origines, on se rendait compte que, en tout cas dans les entretiens, ils ne savaient pas forcément quelles étaient les origines de l'euro numérique ou même, disons, des monnaies numériques de banque centrale. Et donc, c'est un peu ce qui m'intéressait dans cette conférence. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je développe sur ces premiers projets, mais peut-être simplement pour compléter donc le rapide exposé que j'avais fait avant sur les années 90. Ce sont aussi des projets qui étaient beaucoup plus ambitieux initialement.
Oui, c'est ce qu'on se disait, oui.
Tout à fait.
Et qu'à partir du moment où c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où des acteurs privés comme les banques commerciales s'en sont mêlés, forcément on revoit les projets à la baisse. Donc on est finalement, Valentine Floriani, dans un espèce d'entre-deux entre un projet d'intérêt public, de service public très fort, et puis des négociations avec le privé, y compris au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas que les États-Unis finalement qui forment ce mariage-là entre privé et public.
Oui, tout à fait. Donc finalement, un rapport de force, que ce soit sur l'objet lui-même, ses caractéristiques, et finalement sur aussi les relations de légitimité entre ces institutions, sont complètement induits dans ce projet.
Un euro numérique, symbole d'un certain rapport de force. Un grand merci à tous les deux, Valentine Floriani et Éric Monnet, d'avoir participé à cette émission. Éric Monnet, je précise que vous donnez une conférence précisément sur ce sujet au CEPI dans 10 jours, le jeudi 29 janvier à 8h30, à vie donc au Lefto. Et puis Valentine Floriani, je rappelle le titre de votre thèse actuellement en cours d'élaboration, de rédaction peut-être, Émergence, enjeux et processus de politisation du projet d'euro numérique de la BCE vers une sociologie politique de la digitalisation de la finance. Et tout de suite, on continue de parler des États-Unis, mais on remonte le temps à autour d'une centaine d'années, époque à laquelle l'accès au crédit devient un enjeu à la fois économique, social et surtout moral. C'est le deuxième épisode de notre série « Vivre la dette ».